6h-9h, votre matinale info avec Sébastien Krebs.
Et avec Théo Manval pour l'info. Bonjour Théo.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Nous n'avons jamais cherché à blanchir qui que ce soit. La réponse de la patronne de la police des polices dans les colonnes de Libération. Elle se défend de toute complaisance à l'égard du pouvoir. Le verbatim dès le début de ce journal. Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays. Donald Trump a pris la parole cette nuit après la double tuerie de masse aux États-Unis hier. On fera le point sur la situation avec notre correspondant sur place. Dans ce journal également, la situation très tendue à Hong Kong ce matin, métro paralysé, aéroport à l'arrêt pour cause de grève générale. La nouvelle charte du gouvernement pour en finir avec la pollution au plastique sur les plages et dans nos mers. Et puis la tournée d'été des festivals de la musique classique, comme chaque jour, avec Thierry Geffrotin.
Europe 1.
C'est donc une interview sans concession que livre ce matin Brigitte Julien dans les colonnes de Libération. La directrice de l'IGPN sort du silence, accompagnée du chef de l'unité qui coordonne ses enquêtes, après une semaine de critiques virulentes sur le contenu du rapport publié par leur service concernant la mort de Steve Canisso à Nantes. Un rapport qui excluait tout lien entre le drame et l'action des forces de l'ordre le soir de la fête de la musique. Emmanuel Dutheil, les dirigeants de la police des polices, répondent ce matin point par point.
Oui, et ils sont deux à monter au créneau dans Libération ce matin. Ont-ils cherché à blanchir l'action des policiers ? C'est faux, répond vertement David Chantreux. Nous n'avons jamais eu la volonté de blanchir qui que ce soit. Et il rappelle comment ces enquêtes administratives sont faites. On doit faire ce que l'on peut avec les moyens dont on dispose dans le cadre d'une enquête administrative, admet-il. Il n'est par exemple pas possible d'accéder aux procès-verbaux de plainte, précise-t-il. Ce n'est en aucun cas le rôle de ce genre d'enquête de lancer un appel à témoins, ajoute Brigitte Julien. Et ils défendent les conclusions de leur enquête. On dit que l'emploi de la force était légitime en réaction à des jets de projectiles. On ne porte pas de jugement sur les consignes de la préfecture d'aller éteindre la musique à 4h du matin. On ne s'est pas autorisé à le faire, assure-t-il. Et il rappelle que c'est l'enquête judiciaire qui maintenant va devoir faire plus largement la lumière sur ce qui s'est réellement passé à Nantes.
Emmanuel Dutheil pour Europe 1.
L'autre grand titre à la une ce matin, c'est donc la réaction de Donald Trump à la double fusillade qui a frappé les États-Unis.
Le président américain s'est exprimé dans la nuit. « Il n'y a pas de place pour la haine dans notre pays », dit-il, mettant toutefois ces tueries sur le compte de la maladie mentale. En l'espace de 13 heures, deux tireurs ont donc fait 29 victimes au Texas et dans l'Ohio. Benoît Clerc, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Que sait-on précisément de ces enquêtes, de ces attaques ce matin ?
Oui, les enquêteurs du FBI sont toujours présents sur les deux sites du Texas et de l'Ohio pour comprendre pourquoi et comment, à 12 heures d'intervalle, deux jeunes tueurs de 21 et 23 ans, lourdement armés, ont pu abattre 29 personnes et en blesser près d'une quarantaine d'autres en seulement quelques minutes. Dans les deux cas, les suspects sont jeunes, blancs, et le premier a clairement indiqué aux forces de l'ordre sa démarche contre les immigrés et son support aux extrémistes dans un manifeste de 4 pages où il reprend nombre de théories professées par Donald Trump avant et depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le second suspect qui a fait irruption dans un bar de Dayton dans l'Ohio peu après 1h du matin dimanche a abattu, lui, sans discernement 9 personnes, dont sa propre sœur et le petit ami de celle-ci, avant d'être neutralisé par une patrouille de police qui était dans les parages. Des veillées de prière ont été organisées dans les deux États, mais la population américaine est sous le choc ce matin et un message commence à monter sur les réseaux sociaux. Enough is enough. Trop, c'est trop. Aux États-Unis, Benoît Clerc, Europe 1.
Retour en France à Générac, dans le Gard, où le dispositif des sapeurs-pompiers est considérablement allégé.
L'incendie qui a coûté la vie vendredi à un pilote bombardier d'eau est désormais maîtrisé, reste encore à le noyer totalement. Mais les habitants sont toujours sous le choc. 3 jours après le drame, ils veulent savoir si ce sinistre est aussi criminel, car ils ont perdu un proche, parfois un ami. Victor Delande a rencontré l'un des collègues du pilote, Franck Chesneau.
En arrivant au poste de commandement des sapeurs-pompiers de Générac, Thierry Loane tombe dans les bras du chef des opérations en larmes. Cet officier de sécurité aérienne de la base de Nîmes-Garon connaissait très bien son ami.
Je perds un ami, je perds un frère d'armes, puisqu'on est rentré quasiment dans l'armée la même année. Et ça fait 27 ans qu'on se suivait dans nos carrières respectives. Et c'était un homme au grand cœur, toujours serviable, toujours prêt à rendre service. Le sens du sacrifice, de l'abnégation, enfin toutes les valeurs qui me paraissent essentielles dans nos métiers, mais lui, il les portait très haut. C'est le souvenir que je garde de lui et que je garderai toujours.
Thierry Loane vole lui aussi sur des trackers, ces bombardiers d'eau utilisés pour lutter contre les incendies. Il assure que tous ses pilotes sont bien entraînés et parfaitement conscients des dangers. Mais le risque zéro n'existe pas.
La part de risque, elle est présente et un accident, c'est toujours une conjonction de facteurs, une accumulation de choses. Donc seule l'enquête nous dira, mais la difficulté de ce métier-là en particulier, c'est qu'on est tout seul dans un avion. On n'a pas d'aide au pilotage, c'est vraiment de l'aéronautique à grand-papa. C'est du pilotage aux fesses, c'est du pilotage à l'instinct, parce que les feux sont jamais les mêmes, parce que les températures sont pas les mêmes. C'est toujours une remise en question permanente. C'est ce qui fait la difficulté de notre métier, mais ce qui fait aussi la beauté de notre métier.
Et ne lui parlez surtout pas de la vétusté de ses appareils. Un tracker, c'est un vieil avion, certes, explique-t-il, comme une Jeep désert ultra solide, mais il le martèle, ce type d'avion n'est pour rien dans l'accident de son ami. À Générac, Victor Dolande, Europe 1.
En bref, l'Ocean Viking a quitté le port de Marseille à 22h hier soir. Le nouveau navire de l'ONG humanitaire SOS Méditerranée entame sa première mission de secours aux migrants au large des côtes libyennes, 8 mois après l'arraisonnement de l'Aquarius.
Europe 1.
À suivre, la nouvelle charte du gouvernement pour lutter contre le plastique sur les plages. Elle est présentée ce matin.
Moustique, tic, aïe, ça pique.
Le spray répulsif pur essentiel anti-pique est le bouclier protecteur 100% naturel et efficace contre tous les insectes piqueurs. La puissance de ses huiles essentielles repousse les moustiques les plus féroces, comme le moustique tigre, jusqu'à 7 heures.
Pur essentiel anti-pique en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Peugeot présente plein phare sur la Peugeot 208.
Dans l'été tout compris, les dernières offres produites par Peugeot, la 208 crève l'écran. Avec son style racé, sa navigation connectée et les créneaux sans trucage de son parc assist, le public ressort conquis. Et cette intrigue! Quand on apprend que la 208 est à partir de 149€ par mois sans apport, avec assistance et garantie incluse pendant 4 ans, alors là, on tombe de son siège.
LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 jusqu'au 25 août sous réserve acceptation crédit par. Détails sur off.peugeot.fr.
7h06, reprise de votre matinale info avec Sébastien Krebs.
La suite du journal de Théo Manval avec ce texte qui sera présenté ce matin pour en finir avec le plastique sur nos plages.
Une charte rédigée par la secrétaire d'État à la transition écologique Brune Poirson qui va donc la rendre publique à 11h à la Seyne-sur-Mer dans le Var. 15 engagements à prendre pour les communes situées sur le littoral avec pour objectif, Johanna Chabas, d'en finir enfin avec les déchets marins dont 80% proviennent de la terre ferme.
Sur les plages de sable ou de galets de la Seyne-sur-Mer, comme partout en France, il y a toujours un intrus, le plastique. C'est pour ça que la ville est l'une des premières à signer cette charte. Cela l'oblige à tenir 15 engagements, comme par exemple sensibiliser les passants et indiquer où jeter et trier ses déchets, ou encore encourager les commerçants à ne plus vendre des objets en plastique à usage unique, comme les pailles ou les gobelets. La ville peut également former son personnel au nettoyage des plages, ou, plus surprenant, la commune peut aussi installer des fontaines à eau. Encourage les gourdes réutilisables plutôt que les bouteilles en plastique jetable. 13 autres villes en plus de la Seyne-sur-Mer signent aussi cette charte pour obtenir un label plage sans plastique. Le gouvernement se veut très incitatif et encourage toutes les communes du littoral à signer. Et pour cause, il y a urgence, le plan biodiversité fixe un objectif. La France devra rejeter zéro plastique en mer d'ici 2025. Et on en est encore très loin aujourd'hui.
Johanna Chabas.
Et puis l'impact de nos vacances sur l'environnement, c'est justement notre dossier ce matin. Europe 1 va plus loin. Dans 5 minutes, on en parle avec mon invité Jérôme Cabelguen. Il est le conservateur de la réserve du Golfe du Morbihan. On parlera notamment de la protection des oiseaux. À l'étranger, à présent, Hong Kong, en partie paralysé ce matin.
Le métro et l'aéroport ont été partiellement bloqués par des militants opposés à l'emprise de Pékin sur le territoire au lendemain d'un week-end de forte tension déjà. Et alors qu'un appel à la grève générale était lancé pour aujourd'hui, Géraldine Vosner, visiblement appelle effectivement très suivi.
Oui, on a vu des files d'attente gigantesques à l'heure de pointe dans le métro de Hong Kong. Des manifestants sont descendus sur les rails. Ils ont bloqué des portes pour les empêcher de se fermer. À l'aéroport, une centaine de vols ont été annulés. C'est l'un des plus fréquentés au monde. Ça crée bien évidemment un chaos. Après plus de 2 mois de manifestations, Hong Kong traverse sa plus grave crise politique depuis la rétrocession en 97 par le Royaume-Uni. C'était ce week-end, le 9e week-end de contestation. Des heurts assez violents violents ont eu lieu encore hier soir. Les militants pro-démocratie dénoncent qu'ils estiment être un recul des libertés. Mais le gouvernement pro-Pékin refuse de se laisser impressionner et se braque. La dirigeante de l'exécutif a tenu une rare conférence de presse il y a quelques heures. J'ose affirmer que ces manifestations visent à renverser Hong Kong, a-t-elle dit, à détruire complètement la précieuse vie de plus de 7 millions de personnes. La situation ce matin semble plus bloquée que jamais.
Merci beaucoup Géraldine Vosner.
Et on termine ce journal de 7h avec la suite de notre tournée des festivals d'été de la musique classique.
Et coup de projecteur ce matin sur un tout jeune festival qui se déroule en ce moment dans le département de la Creuse. Musique à la source, c'est son nom, a été créé par un musicien de 23 ans, tombé amoureux de la région et surtout d'un film tourné près d'Aubusson. Thierry Geffrotin.
C'est l'un des films préférés de Valentin Tourné qui lui a donné l'idée de choisir le département de la Creuse pour créer son festival. De nombreuses scènes de Tous les matins du monde ont en effet pour cadre un château et la chapelle d'une abbaye non loin d'Aubusson. Les lieux étaient trouvés. Restait le plus difficile pour le jeune joueur de viol de gamme de 23 ans, faire vivre le projet.
J'ai été voir évidemment quelques potentiels sponsors, le département de la Creuse. J'en ai parlé aux différents élus locaux qui m'ont soutenu dans cette démarche, qui se fait avec un budget très faible et on compte vraiment aussi beaucoup sur le public. Je sollicite essentiellement des artistes que je connais bien, des amis ou des proches. Donc ils savent très bien que dans des petits festivals, d'autant plus un festival qui démarre, il faut toutefois faire un effort pour aider ce genre d'initiative à percer et pour que ce festival devienne pérenne.
Pour cette première édition de Musique à la Source, 11 rendez-vous sont programmés, 8 concerts, 2 conférences et une rencontre autour du film Tous les matins du monde.
Le festival Musique à la Source est donc jusqu'au 10 août. Et puis un dernier mot pour vous dire que l'Égypte a présenté hier le sarcophage doré de Toutankhamon qui est en restauration pour la première fois depuis sa découverte en 1922. Ce sarcophage en bois de 2 mètres de haut, doré à l'extérieur, fastueusement décoré, sera restauré pendant 8 mois et puis il sera exposé ensuite avec d'autres objets dans le grand musée Toutankhamon qui doit ouvrir fin 2020 en Égypte.
Face aux pyramides de Khéops notamment. 7h11, merci. Merci beaucoup, c'était le journal de Théo Manval.